passer du continent nord-américain à l'océan Indien. Et j'ai passé une nuit en métropole entre les deux. Puis, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que à cette occasion de la prédication de l'Évangile et de l'enseignement de la parole de Dieu, beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, de jeunes et de personnes âgées, se sont tournées vers le Seigneur et ont répondu à l'appel du Seigneur. Et certaines personnes sur les rencontres en rencontre dans des lieux différents. Et puis alors les personnes me disaient, bah, écoutez, j'ai pas levé la main ce soir à l'appel, mais parce que j'ai levé la main tel jour, il y a une semaine ou il y a trois jours, enfin, etc. Donc d'autant plus de conversion, des gens qui sont intégrés à leur église locale. Et en même temps, en discutant tant au Québec que sur l'île de la Réunion avec les chrétiens, je me suis rendu compte une fois de plus que la grâce de Dieu n'était pas toujours bien saisie. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, maintenant que je suis sauvé, je vais faire tous mes efforts pour pouvoir servir Dieu. Alors je lui ai dit, mais tous tes efforts, comment ça? Ah bah parce que je vais chercher en moi la possibilité de servir Dieu. Et j'ai dû lui expliquer ce que c'est que la grâce de Dieu. Et malgré tout, je me suis rendu compte qu'il aurait fallu que je reste au moins 6 mois sur l'île pour que ces grandes vérités soient bien saisies. C'est pour cela que j'ai donné pour titre à cette méditation de cet après-midi « Fidélité humaine ou fidélité de Dieu ?» en partant du texte d'1 Corinthiens, chapitre 1, des versets 4 à 9. Et ce texte commence par cette déclaration de l'apôtre Paul. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Et donc j'aimerais porter un instant notre intérêt sur cette expression, la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous accorde sa grâce suite à la repentance et à notre conversion, alors automatiquement, quand Dieu nous sauve par grâce, par le moyen de la foi, eh bien la culpabilité nous est retirée. Pardon, nos péchés sont pardonnés, et donc la culpabilité nous est retirée. On peut donc dire qu'il ne peut pas y avoir de coexistence entre la grâce de Dieu et la culpabilité, puisque la grâce de Dieu chasse la culpabilité par le pardon des péchés. Et s'il n'y a pas de pardon des péchés, eh bien, il n'y a pas de grâce, et donc il y a à ce moment-là une culpabilité. Donc un chrétien né de nouveau qui se sent encore coupable, c'est certainement quelqu'un qui n'a pas tout à fait saisi ce qu'est la grâce de Dieu. Dieu ne nous dit pas, lorsqu'il nous sauve en Jésus-Christ, suite à notre repentance, il ne nous dit pas « je suis miséricordieux et je te fais grâce ». Mais attention, si tu fais le moindre faux pas, je te reprendrai la grâce. Dieu ne nous dit pas cela. Dieu nous accorde sa grâce une fois pour toutes. La grâce, donc, ne serait plus de la grâce si Dieu nous disait « Je te sauverai si tu ne pèches plus ». Vous comprenez que s'il y avait une telle condition dans la relation avec Dieu, on ne pourrait pas parler de grâce. Pourquoi? Parce que si nous étions capables de ne pas pécher, de ne plus pécher, nous n'aurions pas besoin de la grâce. Parce que nous pourrions mériter notre salut, nous pourrions y avoir droit par nos propres efforts. Et donc, ne mélangeons pas grâce de Dieu et puis qualité personnelle, c'est-à-dire capacité à vivre pour Dieu. Dieu non seulement nous fait grâce pour nous sauver, mais il nous fait grâce pour nous donner la capacité de vivre dans la sainteté et d'avoir la victoire sur le péché. Et rien ne vient quelque part de nous. Tout vient de Dieu, tout vient de sa grâce. Selon l'Écriture, la grâce, elle présuppose un pardon immérité permanent. La grâce ne peut opérer que là où il y a du péché. Donc n'essayons pas de nous présenter devant Dieu par nos propres moyens pour gagner notre salut, puisque la grâce ne peut s'exprimer que s'il y a du péché. Et si on ne reconnaît pas que notre nature nous empêche de gagner notre salut, toujours négligé là-bas. Et une fois sauvés, si nous pensons que nous allons par nos propres efforts réussir à vivre pour Dieu, alors là aussi nous commettons une erreur, parce que c'est parce que nous avons une vieille nature dans un corps mortel que Dieu nous fait grâce en permanence. Et c'est pour cela qu'il est question d'une faveur imméritée. Et une faveur permanente une fois qu'on est sauvé et qu'on appartient au Seigneur par la conversion à Jésus-Christ. S'il n'y a pas besoin de pardon, la grâce est inutile. Et c'est bien parce qu'avant d'être sauvé, nous avons besoin de pardon. Et une fois que nous sommes sauvés, quand nous commettons une erreur, une faute, une négligence devant Dieu, nous avons aussi besoin de pardon, nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce ne se mérite pas et elle ne se rembourse pas. On ne peut rien donner à Dieu qui lui nous a tout accordé et nous fait grâce. N'essayons pas de rendre quelque chose à Dieu par nos propres efforts, par notre propre volonté. C'est toute cette particularité que la grâce ne se mérite pas et ne peut pas se rembourser, que effectivement cette grâce de Dieu est véritablement la seule et unique grâce qui nous permet non seulement d'être sauvés, mais aussi de bénéficier de la puissance de Dieu une fois que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes chrétiens, la puissance de Dieu pour vivre selon sa volonté et de cette vie nouvelle apportée à Dieu. Lorsque Dieu sauve en Jésus-Christ, il ôte tout péché, toute culpabilité et toute condamnation. Et ça, un des effets de la grâce. Toute culpabilité est retirée parce que tous les péchés sont pardonnés et nous avons la certitude dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous habite et par la parole de Dieu, la certitude que nous n'avons plus d'aucune condamnation. Il n'y a plus d'aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Épître aux Romains, chapitre 5. La grâce ne peut non plus coexister avec une obligation humaine. Nous ne devons pas penser « Dieu a été miséricordieux envers moi et il m'a sauvé, maintenant il faut que je donne quelque chose au Seigneur. Il faut que je fasse quelque chose pour en quelque sorte déplaire et le rembourser. » La grâce est un don gratuit. Ce n'est pas un prêt. Dieu ne nous prête pas la grâce, il nous la donne et nous l'accorde. Et cette grâce, elle a une dimension au niveau de justification, c'est-à-dire qu'elle, c'est par le moyen de la foi, par la grâce, par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et en même temps, cette grâce, elle a une action dans notre vie en tant que né de nouveau, en tant que chrétien. Et elle va nous permettre de vivre les choses de Jésus-Christ. Nous sommes totalement endettés. C'est vrai que quand on regarde notre position par rapport à Dieu, on a tout reçu de lui. Nous sommes en ce sens-là, quelque part, nous sommes endettés. Mais nous n'avons pas de dette à rembourser. C'est-à-dire que Dieu nous a tout donné et il ne demande rien en retour. Évidemment, il nous demande de nous offrir, de vivre pour lui. Mais quelque part, ça ne veut pas dire qu'on est en train de rembourser la grâce. Mais simplement la raison même de ce que son amour développe dans nos cœurs et dans nos âmes, c'est le désir de se mettre au service de celui qui justement nous a tout donné et nous a accordé sa grâce. Merci au Seigneur pour la lumière, ça fait du bien. Nous ne pouvons pas payer pour notre salut. Le salut, le rachat de nos âmes ne représente pas un prix en argent ou en action personnelle. Donc nous ne pouvons pas payer pour notre salut ni avant. Avant d'être sauvé, on ne peut rien offrir à Dieu pour être sauvé. On peut venir à lui qu'en lui demandant pardon pour nos péchés. Donc si on ne peut pas donner quelque chose à Dieu avant notre salut, on ne peut pas davantage lui payer quelque chose ou lui rembourser quelque chose après notre conversion. On n'a pas pu le faire avant, on ne va pas le faire après. La grâce ne fonctionne pas. fonctionne pas selon le principe du travail accompli ou du mérite.
C'est un don de ce qui n'est ni gagné ni mérité. On ne peut que recevoir la grâce de Dieu. C'est véritablement un cadeau. Il va y avoir la période de Noël. Il va y avoir des cadeaux. Et véritablement, je souhaite que vous receviez des cadeaux, mais si on vous offre des cadeaux, c'est par amour. J'espère qu'on ne vous offre pas des cadeaux simplement parce que vous avez fait quelque chose. C'est vraiment gratuit. Et j'ose espérer que vous allez offrir des cadeaux gratuitement à ceux que vous aimez, pas parce qu'ils vous ont fait plaisir, mais simplement parce que vous les aimez. Et dans le fond, comment pourrions-nous payer ce qui n'a pas de prix ? La grâce n'a pas de prix, c'est inestimable. Même si nous offrions à Dieu le plus grand amour, la plus grande consécration, la plus grande obéissance et le plus grand service, la valeur de tout cela n'approcherait pas celle de ce qu'il nous donne en Jésus-Christ. Nous ne pourrons jamais rembourser le Seigneur. Comparé à la grâce de Dieu, nos meilleures œuvres ont une valeur encore plus dérisoire. C'est pour ça qu'à Israël, qui essayait de plaire à Dieu par les œuvres, Dieu, par le prophète Ésaïe, leur fait dire « Toute votre justice est comme un vêtement souillé ». C'est-à-dire, n'essayez pas d'acheter quoi que ce soit, vous ne pouvez pas, puisque tout ce que vous faites est entaché par votre nature pécheresse. Nous devons à Dieu notre amour le plus profond, ça c'est évident, en réponse à sa grâce. Notre consécration la plus complète et notre service le plus parfait, comme expression de notre gratitude, et parce que tout ce que nous sommes ou possédons lui appartient. Dans le fond, quand on se livre au Seigneur pour vivre pour lui, pour lui obéir, c'est parce qu'on a compris que nous lui appartenons entièrement en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a recréés en Jésus-Christ. Rien ne nous appartient, pas même nous-mêmes, pas même notre propre vie. Hein. Et par voie de conséquence, c'est par gratitude qu'on s'offre. Et nous l'aimons, pourquoi ? Parce qu'il nous a rendus capables de l'aimer. Nous l'aimons, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Il y a toujours une préséance pour Dieu. Et c'est très important de comprendre cela parce que ça va nous permettre de développer notre vie chrétienne dans une harmonie et une paix avec Dieu. On va demander à Dieu la puissance de vivre sa vie. On va lui demander qu'il nous accorde la grâce de vivre pour lui. Est-ce que vous connaissez le livre Crazy Love ? Ça vous dit quelque chose ? C'est un livre d'un pasteur américain. Tu connais ? Tu as lu ? Pardon ? Ah, tu l'as acheté hier ? Ah, t'aurais pas dû l'acheter, il l'offre gratuitement. Tu nous aurais dit ça, on te l'aurait eu gratuitement. Mais c'est très intéressant, c'est un pasteur américain, noir américain, qui a découvert dans le fond quelque chose de très simple. Il a dit, pendant plusieurs années, j'ai cru que la vie chrétienne, c'était venir à l'église, respecter les horaires, lire la Bible, prier, faire la dîme, etc. Mais il s'est dit, je me rendais compte que ça marchait pas. Je n'avais pas la puissance de la vie de Christ en moi. Il était né de nouveau. Hein. Jusqu'au jour où il a compris que, dans le fond, la relation que Dieu veut établir entre lui et nous, c'est une relation d'amour qui repose sur la gratitude, sur sa grâce. Et qu'on se présente à lui en tant que chrétien de la même manière qu'on s'est présenté à lui avant d'être sauvé. On arrive devant lui, on dit « Seigneur, prends-moi, transforme-moi, aujourd'hui donne-moi la capacité de vivre pour toi parce que je sais que je ne l'ai pas en moi ». Mais toi, Seigneur, exprime-toi au travers de moi. Et ça, ça nous donne véritablement d'expérimenter, de goûter, de se nourrir de la grâce de Dieu. Nous lui devons tout par gratitude et rien par obligation. Dans la relation que Dieu établit entre nous sur la base de la grâce, il veut que nous offrions à lui par gratitude, par reconnaissance, pas par obligation. Et ça, vous savez, c'est une sacrée leçon à apprendre au quotidien. Parce que nous, on aime bien travailler sur le rapport donnant-donnant. Vous savez, nous, on a des voisins, ils sont super, on est entouré de voisins remarquables, hein, de tous les côtés où on se tourne, on a des voisins super. On peut aller leur demander n'importe quoi. L'autre jour, ma femme n'avait plus de sopalin. Elle avait demandé du sopalin à la voisine. Mais nous, quand on veut leur rendre, ils ne veulent pas recevoir ce qu'ils nous ont donné. Mais quand eux, ils viennent chercher quelque chose chez nous, ils veulent absolument nous rembourser. Si on leur donne 6 œufs, ils veulent nous rendre 12 œufs. Alors on leur dit, mais non, écoutez, quand on vous demande quelque chose, vous ne voulez pas qu'on vous les rende. Alors, s'il vous plaît, acceptez qu'on refuse de prendre ce que vous voulez nous donner. Et mais ils disent, non, il faut le prendre. C'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment sur le rapport donnant-donnant. Ils ne veulent rien devoir à personne. C'est une folie dans la relation avec Dieu, ça. Puisque nous serons toujours et pour l'éternité redevables de quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez rendre à Dieu quelque chose? Il est Dieu. Il est tellement saint, tellement supérieur à chacun d'entre nous que c'est impensable d'imaginer pouvoir rendre quelque chose à Dieu. On ne peut que s'offrir à lui, se donner à lui, se présenter devant lui et lui dire « Seigneur, prends-moi. Et par ta grâce, donne-moi ta vie. » Pour aujourd'hui. Alors la Bible, elle donne 3 raisons principales à l'expression de la miséricorde de Dieu. Premièrement, Dieu sauve des personnes afin que ceux qui sont sauvés puissent pratiquer de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, elles touchent la vie des autres, chose en leur parlant de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Nous sommes son ouvrage » ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a sauvés, il a fait de nous son ouvrage en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans l'épître de Tite, au chapitre 2, verset 14, il est dit « Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité » et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mais dites-moi, un peuple qui lui appartient, c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous appeler pour former et nous intégrer à son peuple, l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, on lui appartient, c'est parce que Dieu a bien voulu nous sauver. Purifié par lui, c'est encore Dieu qui a pris l'initiative et qui nous donne d'être purifiés. Et en même temps, il nous donne la capacité d'être zélés pour les bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est là où on voit le fait d'appartenir au peuple de Dieu, le fait d'être purifié qui nous parle de la conversion, et puis le fait d'être zélés pour les bonnes œuvres, ça nous parle de notre vie chrétienne. Et de la même manière que Dieu a tout fait pour nous racheter, nous purifier et faire de nous un peuple en nous intégrant à l'Église de Jésus-Christ, au corps du Christ, pour que nous le servions, eh bien, il nous donne la capacité d'être zélés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous voulez être zélés ? Ne cherchons pas en nous-mêmes du zèle. Demandons-le au Seigneur, il va nous le donner. Seigneur, fais-moi la grâce aujourd'hui d'être zélé pour toi. Vous priez comme ça dans votre vie? Eh bien, si vous ne le faites pas, commencez. Si vous le faites déjà, continuez, puis vous allez voir, ça marche. Je connais des chrétiens, ils m'ont dit « Ah non, je ne veux pas prier comme ça. » Je leur ai dit « Pourquoi ?» Ils m'ont dit « Ah, Dieu va nous prendre, il va nous faire faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on veut diriger notre vie. » Ah ben, je leur ai dit « Ça dépend ce que tu veux vivre. Hein. » Parce que dès qu'on commence à prier dans ce sens-là, c'est évident que Dieu va se mettre en marche et il va se saisir de nous qui lui appartenons pour nous faire pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et puis dans l'épître de Tite, au chapitre 3, verset 8, il est dit « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Eh bien, elle est là, clairement écrite. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est bon pour les chrétiens, c'est bon pour les hommes, c'est utile pour tout le monde. Utile pour ceux vers lesquels nous orientons notre service et utile pour nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas plus grande joie que de vivre pour Dieu et d'être dirigé par sa bonne main. Dieu nous a sauvés pour que nous fassions de bonnes œuvres, parce que les bonnes œuvres sont utiles aux hommes, et Dieu veut que ses enfants touchent le monde entier par leur bonté, et cela nous est rendu possible par Jésus-Christ, son Fils. Deuxièmement, la grâce doit apporter des bénédictions aux croyants. Non seulement la grâce nous sauve, mais en même temps, la grâce nous équipe. Elle nous équipe de la connaissance de Dieu, de la compréhension de la parole de Dieu. Elle nous ravit, cette grâce, quand elle nous fait comprendre qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous. Quand on contemple dans la parole du Seigneur la gloire du Sauveur, on est enthousiasmé par la personne de Jésus-Christ. Voilà des richesses que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent. Et c'est pour ça qu'en Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7, il est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » C'est la capacité que nous avons de parler du Sauveur autour de nous, de ce qu'il nous accorde dans nos vies, de ce qu'il fait au travers de chacun d'entre nous. C'est pour ça que quand nous parlons, les gens disent « Mais vous parlez comme si vous connaissiez Dieu !» Mais oui, on connaît le Seigneur. C'est une des plus grandes grâces que Dieu nous accorde. Et croître dans la connaissance du Seigneur, voilà une des plus belles grâces qui nous est accordée. Et puis il y a la compréhension du sens de notre vie, du pourquoi nous existons. Il y a la compréhension des situations, le discernement sur les personnes et sur les événements qui construisent notre vie. C'est extraordinaire, toutes les grâces que Dieu en réserve, les bénédictions matérielles aussi, et le fait d'être conduit par le Seigneur dans sa paix, dans sa sainteté, dans sa vérité, dans sa justice. Dieu nous sauve par sa grâce afin de pouvoir déverser ces riches bénédictions sur nous pour toujours. Et puis il y a la grâce de savoir que quand nos yeux physiques vont se fermer, c'est la fin du verset 8 et 9 qui nous parle justement de cette dimension des temps à venir. La grâce a une action sur le passé, notre salut, qui est toujours traité dans les épîtres au passé, toute chose accomplie, le salut. La grâce a une action présente parce qu'elle nous équipe pour vivre au quotidien. Et puis la grâce a une action future parce qu'elle nous tourne vers le retour de Jésus-Christ où il est dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. » Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, cette dimension qui s'appelle la dimension eschatologique de la grâce, c'est-à-dire des choses à venir, eh bien, il est dit que la grâce de Dieu ne nous accorde pas seulement des bienfaits passés et présents, elle nous en promet aussi pour l'avenir. Quand nous pouvons partager cette certitude que nous avons que le jour où nos yeux physiques vont se fermer, nous irons directement dans le ciel. Nous attendons cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les gens sont étonnés parce qu'ils ont envie de cela. Moi qui voyage dans différents continents, je peux vous dire que sous toutes les cultures, sous tous les cieux, les gens ont besoin de cette parole de vérité, de certitude et d'espérance. Le Christ Sauveur, mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts et qui revient nous chercher. Et vous n'avez aucun autre message qui vous donne autant de certitude et qui soit vrai comme celui de l'Évangile. Et la confiance que Paul exprime ici, dans le fond, quand il dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables », Paul, il exprime une confiance qui ne se fonde pas sur la solidité de la foi des Corinthiens, mais qui se fonde sur la personne de Dieu, sur son appel et sa volonté clairement exprimée de toute éternité. Il nous a appelés, il nous a justifiés, Il nous a donc sauvés et puis il nous a destinés pour un plan bien précis sur cette terre en attendant de nous trouver en sa présence. Et le verset est très instructif parce qu'il est dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là, vous avez deux significations. La première signification, c'est que Dieu va tout faire pour nous rendre irréprochables. Et la deuxième signification, c'est que le jour où nous allons nous présenter devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ sera présent. Et il est dit qu'au jour du jugement, Jésus se portera garant pour ses disciples. Il affirmera devant le trône éternel de Dieu son Père que nous sommes maintenant considérés irréprochables et purs. Alors le fait que nous sommes irréprochables sera confirmé. Lorsque la Bible dit que Dieu nous voit en Jésus-Christ, il ne nous voit pas avec nos péchés, mais il nous voit en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il nous voit selon la pensée éternelle qui l'anime, de nous joindre à lui pour l'éternité, dans une communication de sa nature, de sa sainteté, de sa pureté. Alors nous sommes porteurs de ces choses, elles s'expriment dans nos corps mortels, mais elles sont encore limitées, quelque part dans leur expression. Mais là, quand nous serons en présence du Seigneur, après qu'il nous aura affermis jusqu'à la fin, il nous déclarera irréprochables devant la majesté de Dieu son Père dans les cieux très hauts. Et il dit au verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et dans cette simple phrase du verset 9, vous avez l'affirmation de ce qui s'appelle la souveraineté absolue de Dieu. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé. C'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle, il nous a appelés à la communion de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui précède, eh bien, nous pourrons le vivre pleinement par sa grâce et dans sa souveraine volonté. Que Dieu conduise et bénisse chacun d'entre nous et qu'il nous donne d'être joyeux et au service du Seigneur pendant la semaine qui commence aujourd'hui. Et pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Amen.